le titre de mon message est celui-ci. Richesse et sagesse sont en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous plaçons ces instants, Seigneur, devant toi. Parce que tu es vivant, Seigneur, parce que tu es puissant. Et Seigneur, tu n'as jamais eu l'intention que ta parole soit partagée sans ta présence. Et Seigneur, nous ne méritons pas ta présence. Mais tout ce que tu nous demandes, c'est de vraiment t'accorder toute notre attention. Et combien je vois, en tournant page et page et page de la Bible, des invitations du ciel à simplement t'accorder toute notre attention, à t'écouter. Et Seigneur, lorsque l'homme tend le cœur et l'oreille et porte attention à Dieu, la présence de Dieu vient. Et Dieu visite et Dieu touche. Alors Seigneur, je prie maintenant contre toute distraction qui pourrait prendre place dans ce lieu, car nous savons qu'il y a un combat aussi qui est spirituel. Il y a peut-être une personne ici aujourd'hui qui lutte intérieurement entre s'abandonner complètement à toi ou garder les choses. Et Seigneur, nous savons qu'il y a une lutte intérieure et qu'un moment de distraction, c'est peut-être un téléphone qui sonne ou quelque chose, du va-et-vient, quelqu'un qui parle, et on peut perdre une parole éternelle, une parole céleste, Seigneur. Alors Seigneur, je te demande vraiment, maintenant, d'honorer le Fils, Jésus. Et c'est en ton nom que nous avons prié, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Cette semaine, ma fille au boulot partageait avec un collègue qui s'ouvrait à la foi. Et elle lui partageait qui est Jésus. Et à un moment donné, il était très ouvert et trouvait vraiment que Jésus est un grand personnage de l'histoire, que Jésus est un sage, que Jésus a fait des miracles, que Jésus a fait des belles choses. Mais quand elle est arrivée à la pensée que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il pardonne les péchés, il y a eu un blocage. C'était trop. Mais j'aimerais vous dire, Dieu a un seul projet pour tous les hommes. Et à trois reprises dans l'Épître aux Éphésiens, j'aime bien, il y a une traduction de la Bible qui dit que vraiment, Jésus était le projet de Dieu. Et si vous cherchez le projet de Dieu pour votre vie, parfois on a plein de projets pour nos vies, mais Dieu a un projet pour votre vie, c'est Jésus. Dieu n'a qu'un seul projet pour ma vie. Et peu importe ce que vous traversez, ça revient toujours à Jésus. Que vous ayez des problèmes psychologiques, du passé, des traumatismes, que vous ayez des problèmes émotifs, que vous ayez des problèmes sociaux, des problèmes caractériels, que vous ayez des luttes avec des péchés, des addictions, que vous ayez des problèmes dans votre corps, que vous ayez des problèmes économiques, matériels, spirituels ou immatériels, ou peu importe, Dieu a tout mis en son Fils, Jésus. Et cette pensée nous échappe parce que dans les évangiles, on voit la vie terrestre de Jésus, n'est-ce pas? Mais on voit Jésus mourir, ressusciter, il part au ciel et l'Église commence. Et on ne sait presque plus rien sur Jésus. L'Épître aux Hébreux va beaucoup nous parler de Jésus au ciel, mais à part l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, mais qui est Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait pour moi maintenant s'il est encore vivant? Et si Jésus est vraiment tout ce que j'ai besoin, où est-il? Et qui est-il? Et que fait-il? Eh bien, Dieu a déjà répondu à toutes ces questions à travers la Bible au complet. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle, la Bible est en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce qui sépare l'Ancien du Nouveau, c'est la croix, quand Jésus est mort. Donc, tout l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple de Dieu d'Israël, mais Dieu avait un plan avant la venue de Jésus. C'était de se servir de l'histoire d'Israël. Dieu a toujours un seul projet, Jésus. Et à travers l'histoire d'Israël, Dieu a sorti des images de qui est Jésus. Et l'apôtre Paul dira que toutes ces images, toutes ces histoires, le roi David qu'on va voir dans un instant, le roi Salomon, tous ces hommes, non seulement c'était l'histoire d'Israël, mais Dieu s'en servait pour nous annoncer, nous aider à comprendre qui est Jésus et qu'est-ce que nous avons en lui. Et même Paul dira dans un écrit que toute l'histoire d'Israël, c'était comme une ombre. Une ombre, c'est une silhouette, c'est une forme, c'est pas encore clair. Et maintenant, le Nouveau Testament est clair. Mais l'Ancien Testament annonçait Jésus, le projet de Dieu pour ta vie. Et dans l'Ancien Testament, il y a des perles extraordinaires pour mieux connaître qui est notre Jésus. Amen. Et j'aimerais vous montrer quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que dans la royauté de David et de Salomon, il y a une image très pratique et palpable et touchable et applicable à nos vies ici aujourd'hui. Les théologiens disent que la royauté de David et de Salomon, David est le deuxième roi d'Israël. Le premier roi, c'est Saül, mauvais roi, on n'en parle pas. Le choix de Dieu, ce n'était pas Saül, c'était David. David était le berger d'Israël, David était l'image de Jésus, était un type de Christ qu'on appelle une annonciation de Jésus qui viendrait. Il n'était pas parfait, mais à travers ses imperfections, Dieu s'est servi de lui. Et à travers les imperfections de son fils Salomon, Dieu s'est servi de lui aussi pour nous montrer quelque chose de Jésus que je vais vous montrer d'extraordinaire aujourd'hui. David, roi d'Israël, le oint de Dieu, représentait Jésus avant la croix. Suivez-moi bien. Salomon représente Jésus après la croix. On dit que ces deux rois faisaient symétrie. On dit, David l'a voulu, Salomon l'a fait. David l'a désiré, Salomon l'a accompli. Le plus grand désir du roi David était de bâtir une maison pour Dieu. Son fils l'a fait. C'est exceptionnel parce que de tous les rois d'Israël, seul le roi David et le roi Salomon ont conquis la terre promise comme Dieu l'avait demandé. Depuis Moïse, Dieu avait dit, et même Abraham, depuis Moïse, Dieu avait déterminé des limites et Dieu avait dit, ça, ce sera les limites que je vous donne. Seul David est allé jusqu'en Syrie, au nord-est de la Syrie, jusqu'à l'Euphrate, à un certain village. Il a conquis ce lieu. C'était les limites. Et Salomon les a gardées. Les autres rois ont perdu ces territoires. David et Salomon les ont conquis et gardés. David représente Jésus. Seul Jésus a tout accompli. Seul Jésus a tout conquis à la croix, les limites infinies de ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Avant la croix, après la croix, c'est Salomon. David et Salomon ont dit qu'ils font une symétrie ensemble, exceptionnelle. Maintenant, suivez-moi bien. David a dit à Dieu, « Je veux te bâtir une maison. » Et Dieu dit, « Ce que tu désires est une bonne chose. » Christ est venu dans le monde non seulement pour effacer notre passé, mais pour bâtir une maison, la maison de Dieu dans ton cœur. Christ est venu pour ça. Attention, beaucoup de chrétiens ont limité leur compréhension de la croix au passé. Jésus est mort à la croix pour mes péchés. C'est vrai, mais c'est la moitié. Jésus est mort à la croix pour effacer tes péchés. Mais Jésus est mort à la croix dans un projet, le projet de Dieu, de bâtir une maison pour Dieu en toi et en moi. Jésus, avant la croix, l'a désiré. Jésus, à la croix, a tout accompli. Jésus ressuscité, qui est-il? Eh bien, on le voit un peu, parce que c'est encore beaucoup plus grand que tout ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. Jésus ressuscité, on voit une infime partie de qui il est dans la vie de Salomon. David a voulu, suivez-moi bien, c'est extraordinaire, David a voulu bâtir le temple. Mais Dieu dira à David, non, tu as été un homme de guerre et tu as versé du sang, tu ne peux pas bâtir ma maison. Jésus, avant la croix, a été un homme de conquête, il a conquis le péché. Il a conquis le diable, les principautés. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu la chair. Jésus a vaincu notre mauvaise nature. Si vous ne le saviez pas, vous avez une mauvaise nature. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, je ne sais pas si tu savais, mais tu as une mauvaise nature et moi aussi. Ah, hein? Il y en a qui sourient, il y en a qui sont comme ça. Ah bon? Je croyais que l'homme était bon. L'homme est fondamentalement pas bon. Disons-le. Il peut être bien intentionné, mais il n'y arrivera pas. Il a besoin de Dieu. Amen. Et Jésus a vaincu. Jésus a été Jésus avant la croix, tu peux le voir comme un conquérant. Il a conquis ces choses. Et Dieu dit à David, tu as conquis, tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. Tu ne peux pas bâtir la maison. Jésus était un homme de guerre et il a versé son sang. Il n'a pas pu bâtir la maison tout de suite. Il meurt, il ressuscite. Le Saint-Esprit vient. Pas trop compliqué, vous me suivez? Jésus monte, il envoie l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient en nous, et l'Esprit de Dieu fait quoi? Il vient en nous. Et Paul dira, vous êtes la maison de Dieu. En d'autres mots, parce qu'il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la maison de Dieu. Donc, en David et en Salomon, nous voyons qui est Jésus. OK? J'aimerais vous montrer sept caractéristiques du règne de Salomon. Les deux premières font partie du titre. C'est que Salomon a été connu pour sa richesse et sa sagesse. Ce sont les deux grandes caractéristiques historiques des faits reconnus sur la royauté de Salomon. Si David a été connu comme un homme de conquête, Salomon a été connu comme le bâtisseur de la maison de Dieu avec richesse et avec sagesse. Les deux premières caractéristiques qui nous intéressent aujourd'hui, c'est que premièrement, la richesse de Salomon, c'est que Salomon est un roi de richesse. Regarde avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 15. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs que les pierres à Jérusalem, les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans la plaine côtière le long de la Méditerranée. Mais regardez bien, le roi rendit l'argent et l'or aussi communs que des pierres à Jérusalem. N'est-ce pas exceptionnel? Juste avant, Salomon a un songe. Dieu lui parle dans le songe et lui dit « Demande-moi quelque chose ». Et Salomon dit « Aide-moi à être un bon roi », en d'autres mots. Et Dieu dit « Je te donnerai sagesse et je te donnerai richesse. » Pas parce qu'il était un chouchou de Dieu, parce que Dieu avait un projet à travers la vie de ce roi, faire ressortir qui est Jésus pour nous. Et Jésus ressuscité a amené un nouveau royaume qui n'est pas dans le monde, mais qui est dans notre cœur. Nous sommes par la foi dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est dans notre cœur. Quelqu'un dit « Amen ». Dites « Ah, si vous comprenez. OK. Donc, nous sommes dans le royaume de Salomon, Christ. Et ce royaume est premièrement caractérisé par la richesse. Là, vous dites « Pasteur, tu vas prêcher l'or, tu vas prêcher la poule, qu'on va devenir riche et tout. » Oui, je vais le prêcher, mais pas comme vous pensez. Aujourd'hui, si vous prêchez aux gens qui vont devenir riches matériellement, vous remplissez l'Église en quelques semaines. Mais vous allez décevoir toute une génération. Christ n'est pas venu pour t'enrichir matériellement. Parenthèse, il est venu quand même pour pourvoir à tous nos besoins, n'est-ce pas? Mais le Seigneur n'a jamais promis de répondre à nos caprices. Il n'y a pas d'amen. Mais le Seigneur a promis de répondre à nos besoins. Il a même promis de nous bénir. Il a même dit qu'il donnerait une mesure serrée, secouée, qui déborde. Dieu est bon. Vous l'avez chanté, j'espère que vous le croyez. Dieu donne de bonnes choses, de qualité. Dieu veut répondre à tous mes besoins, nos besoins matériels. Amen. Ces choses-là, je ferme la parenthèse. Oui, amen, alléluia. Mais qu'est-ce que l'or dans cette histoire? L'or n'est pas un or matériel. Ici, que Dieu veut mettre en évidence, mais un or spirituel. L'or était tellement répandu, ce fut le meilleur temps, c'était les meilleures années économiques d'Israël. Plus jamais après, ni avant, Israël n'était aussi riche. Jamais. Même aujourd'hui, jamais. C'est écrit dans la Bible que si tu voulais traiter avec des Juifs à l'époque, il te fallait de l'or. Un marchand arrivait en Israël, il arrivait à Jérusalem, il voulait faire du commerce avec des Juifs, il sortait ses pièces d'argent, on lui disait, l'argent ici, c'est rien, il faut de l'or. Faire business avec un Juif, de l'or à l'époque. C'est impressionnant. Chaque année, il y avait des tonnes d'or qui arrivaient par bateau juste pour le roi Salomon. Impressionnant, hein? L'or était partout, dans les rues. C'est écrit à plusieurs reprises dans la Bible, l'or était comme des cailloux. Il y en a déjà qui rêvent, ils disent, ce serait pas mal ça comme vie et tout. Spirituellement, attention. Maintenant, le projet de Dieu, c'était de démontrer que cette richesse, nous l'avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Si l'Évangile ne peut pas être prêché partout dans le monde, il n'est pas l'Évangile. Je m'explique. Si on prêche aujourd'hui aux gens qui vont devenir riches matériellement en croyant en Jésus-Christ, eh bien cet Évangile, vous ne pouvez pas le prêcher partout. Parce que chaque année, il y a 40 000 chrétiens qui meurent en prison pour Jésus. Ils ne dorment pas sur de l'or. Hein. Ils dorment sur du béton et de la paille. Il y a des chrétiens partout dans le monde, et moi j'en ai vu, qui aiment Jésus de tout leur cœur, mais ils vivent avec le strict nécessaire. Et ils prient Dieu pour la prochaine collecte de riz et récolte de riz. Comprenez-moi bien. Ils ne toucheront jamais l'or. Et présentement, dans plusieurs pays du tiers-monde, on trompe les enfants de Dieu en leur prêchant que s'ils donnent même à l'Église, s'ils mettent de l'argent dans la quête et tout, Dieu va les bénir, Dieu va les rendre riches. On leur fait toutes sortes de prophéties qu'ils vont devenir riches. C'est un faux évangile. Dieu n'a jamais promis qu'on allait devenir riche. Dieu a promis de répondre à nos besoins. Amen. Donc, la richesse que nous parlons aujourd'hui n'est pas une richesse matérielle, c'est une richesse spirituelle. Quelle est cette richesse spirituelle? C'est simplement la présence de Dieu dans ma vie. Je vous explique. Le grand projet de Salomon, c'était le temple. Le temple, c'est mon cœur. Et regardez bien ce que Salomon a fait. Il a bâti un temple et il a lambrissé tous les murs du temple et le toit. Il a lambrissé tout l'intérieur du temple avec du bois. Dans la Bible, suivez-moi bien, le bois représente souvent l'homme. OK? Jésus a été crucifié, pendu au bois. Qui a crucifié Jésus? Les hommes. Moïse rencontre Dieu au buisson ardent, un buisson de bois embrasé par un feu céleste. Et il n'était pas consumé. Une prophétie que l'homme et Dieu, un jour, allaient vivre ensemble sans que l'homme soit détruit par la justice de Dieu, alors qu'il est pécheur. C'était ça le buisson ardent. Et Salomon, premièrement, il met du bois partout à l'intérieur du temple. Le bois, c'est moi et c'est toi. On est indigne, on ne mérite pas que Dieu vienne dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il fait après le bois? Il prend des tonnes d'or, il vient plaquer l'or sur le bois. C'est ce que Salomon a fait. On entrait dans le temple. De toute façon, même dans la cour du temple, tous les objets étaient d'or. C'était exceptionnel. On entrait, il y avait un vestibule. Le vestibule était d'or. On entrait après dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait 10 grands chandeliers en or qui éclairaient. Le chandelier représente la présence de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Mais quand on entrait, on marchait littéralement sur l'or. Les murs étaient en or et le plafond était en or. En d'autres mots, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, sur Christian qui ne le mérite pas, la présence de Dieu vient. Le sol de ma vie, les murs de ma vie, le toit de ma vie, tous les aspects de ma vie. Et quand Dieu est venu dans le temple à Jérusalem et que la gloire de Dieu est entrée, Dieu est venu habiter dans le temple et que Dieu regardait partout autour de lui, qu'est-ce qu'il voyait? Je suis satisfait. Satisfait, satisfait, satisfait. Tout est accompli à la croix. Je peux vivre avec l'homme, habiter en toi et en moi. Voyez-vous, quand on dit que Dieu habite en nous, ce n'est pas juste une croyance comme ça, hein? C'est un fait. C'est un fait. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu habite, cohabite avec toi, même si tu n'es pas parfait. N'est-ce pas exceptionnel? Ça, c'est la puissance de la croix. Ça, c'est un mystère qu'aucun homme ne peut expliquer. La royauté de Salomon était marquée par la richesse de l'or. L'or, ça représente la présence de Dieu dans ma vie. L'or était partout en Israël, dans les villages, partout où tu vas, Dieu est avec toi. L'or était partout au marché, c'est assez exceptionnel. C'est une vie avec la présence de Dieu avec nous, en nous, partout où nous allons. Quelqu'un dit amen aujourd'hui. La deuxième vérité, c'est que Salomon était connu pour sa sagesse. Il n'y a aucun homme qui a été sage comme Salomon. Salomon annonçait Jésus. Écoutez-moi, il n'y a aucun sage comme Jésus-Christ. Personne ne peut t'aider, te conseiller, répondre à tes questions. Il y a une femme qui est venue, elle était la reine de Saba, elle avait des choses sur son cœur, la Bible dit, on ne sait pas. Mais elle dit à Salomon tout ce qu'elle avait sur son cœur. Il est écrit, Salomon répondit à toutes ses questions. Mes frères et sœurs, je bénis Dieu quand quelqu'un sollicite un entretien avec un pasteur. Je n'ai rien contre le fait que si tu as un problème, tu dégaines comme un arme à feu ton téléphone et t'envoies 15 textos à tes meilleurs amis pour qu'ils prient pour toi. Je n'ai rien contre ça. Mais pourquoi pas Jésus d'abord? Tu as accès à lui. Il a toute la sagesse. Je suis convaincu parce que je l'ai vécu. Jésus peut nous aider dans tous les aspects de nos vies. Jésus peut t'aider avec les mathématiques. Ah ben là, franchement, pasteur, les maths, la compta, tu vois. Attends, qui a inventé les mathématiques? Allô? Ben, c'est Jésus. Si vous ne saviez pas, Jésus a inventé les mathématiques. Hein, tiens. Et pourquoi il ne pourra pas t'aider? Mais je suis dans le social, Jésus ne peut pas m'aider dans les relations. Jésus a inventé les relations sociales. Personne ne peut t'aider comme Jésus. Je n'ai rien contre le fait qu'un chrétien ou quelqu'un aille chercher sagesse et conseil auprès d'un autre. Oui, Dieu peut servir de quelqu'un pour te conseiller. Mais envers et contre tous, avant d'aller voir les hommes, pourquoi pas aller voir Jésus? Je suis convaincu que demain matin, tu peux ouvrir la Bible chez toi, dans le silence de la matinée ou le soir, comme tu veux. Je ne dirais pas le silence du métro, ça n'existe pas. Mais que tu peux ouvrir ta Bible et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Mes amis, ce n'est pas un livre. Ce n'est ni un livre d'histoire, ni un livre de théologie. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est la parole de Dieu. Et Dieu parle. Dieu guide à travers ce livre. Dieu chasse des mensonges à travers ce livre. Dieu te rend ton identité à travers ce livre. Dieu peut te donner des projets pour ta vie, pour l'avenir. Dieu peut te parler du passé à travers ce livre. Dieu peut guérir ton cœur avec ce livre. Ce livre est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça dit? Quand Jésus vint, la parole s'est fait chair. Amen. Jésus est le sage que tu cherches. Toute la sagesse. J'ai rien contre la Sorbonne. Absolument rien. Mais j'ai beaucoup de questions pour les sages de la Sorbonne. Parce que j'ai découvert que plus on monte à l'université, dans les hautes sphères de l'université, plus on trouve des gens qui posent des questions. Vous avez déjà remarqué? Quand tu vas au CP, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? 1 plus 1, ça fait 2. Quand tu arrives dans les plus hautes sphères de l'université, est-ce que 1 plus 1 fait vraiment 2? J'ai raison. C'est fou, hein? Plus tu montes dans la sagesse des hommes, plus tu trouves du doute, du flou, des questionnements, pas avec Jésus. La vraie sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Et notre sage, c'est Jésus-Christ. Amen. Deuxième richesse en Jésus, la sagesse. Troisième trésor avec le Seigneur, la Bible dit que le règne de Salomon était un règne de paix. David a été un conquérant. Et regardez, c'est très fort parce qu'il fallait la mort de David pour que Salomon règne. Il fallait la mort de Jésus à la croix pour que le Saint-Esprit amène un règne de paix. Regardez le Nouveau Testament. Régulièrement, le Saint-Esprit est associé à la paix. Régulièrement. Salomon règne de paix. Saint-Esprit règne de paix. L'Église règne de paix. La volonté de Dieu, c'est que maintenant, il n'y en a plus de guerre. On vit dans la paix. « Ah, mais pasteur, ne devons-nous pas lutter contre les principautés? » Oui, mais regardez bien ce que Paul dit. « Revêtez l'armure afin de tenir. » Le vrai combat, c'est de rester dans la paix. Le vrai combat du chrétien, c'est de dire « Non, j'ai tout en Jésus. Je me repose en lui. Je ne veux pas me stresser, je me confie en lui. » Revêtez toute l'armure afin de tenir. Le combat du chrétien, c'est qu'il est dans une position victorieuse et l'ennemi veut le secouer. Les soucis de la vie, les hommes, toutes sortes de choses, le péché, les tentations veulent l'ébranler. Mais revêtez tout ce que vous avez besoin en Jésus afin de tenir. Amen. Le règne de Salomon est un règne de paix. Je continue. Le règne de Salomon est un règne accessible. Suivez-moi bien. Il est écrit, « Tous les rois de la terre » cherchait à le voir. Imaginez son agenda. Personne ne peut comprendre l'agenda de Salomon. Salomon n'était pas disponible. Il rencontrait des rois, des magistrats. Mais il y avait deux prostituées en Israël. C'est assez particulier parce que même la loi de Moïse interdisait la prostitution. Il y avait deux prostituées en Israël. À l'époque, il n'y avait pas de, je ne sais pas comment dire en français, contraception, c'est ça? Oui? Personne m'aide? Quelqu'un m'aide? Oui? Contraception? Il n'y avait pas de contraception à l'époque en Israël, donc souvent, les prostituées tombaient enceintes. Et là, deux prostituées très pauvres vivaient ensemble, ont accouché, ont un bébé nouveau-né. Et elles sont si pauvres qu'elles dorment avec leur enfant. Et la nuit, l'une d'elles, en dormant, se couche sur l'enfant, étouffe l'enfant et l'enfant meurt. Elle se réveille, elle change les bébés. Le lendemain, l'autre prostituée dit, « Tu m'as trompé. Non, c'est ton enfant. » Et elle demande audience, pas avec le maire du village, pas avec le gouverneur, avec Salomon. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elles eurent une audience avec Salomon. Et Salomon, il ne sait pas laquelle est la maman, vous connaissez l'histoire. Hein? Donc il dit, c'est très simple, amenez-moi une épée, on coupe le bébé en deux, on donne moitié-moitié. Et la vraie maman, non, donnez le bébé à l'autre. Et l'autre dit, non, on coupe le bébé en deux. Salomon dit, c'est elle la mère, l'amour d'une mère. Hein? Belle histoire. Mais ce n'est pas mon point. Mon point est celui-ci. Comment ont-elles pu avoir une audience avec le roi des rois? Parce qu'il y avait d'autres royaumes soumis à Salomon. Comment ont-elles pu avoir audience avec un homme si occupé? Comment ont-elles pu avoir une audience alors qu'elles sont dans le péché? Impressionnant, hein? Salomon était accessible. Suivez-moi bien. Il annonçait la venue de Jésus. Jésus est le roi des rois, le saint des saints. Mais même si tu es une prostituée, tu peux avoir une audience avec Jésus-Christ. Même si tu es dans le péché, même si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, c'est incroyable. Notre Dieu est un Dieu accessible. Les plus petits, les plus pécheurs, les plus immoraux, on n'est pas plus pécheurs les uns que les autres, mais les plus immoraux de la société aujourd'hui peuvent avoir accès à Jésus-Christ. Peu importe comment tu te sens aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait, tu peux avoir une audience avec le roi. Mais les grands de la terre aussi cherchaient à le rencontrer. Il était accessible. Je ne sais pas qui va écouter ce message, mais j'espère qu'un chef quelque part puisse entendre au moins la portion, peut-être un jour sur Internet, de cette prédication. Parce que peu importe vos responsabilités, j'aimerais vous conseiller d'avoir une audience avec Jésus-Christ. Que vous soyez roi d'une nation, maire d'un village, peu importe, mère de famille, chef d'entreprise, il n'y a personne pour conseiller comme Jésus-Christ. Le meilleur livre pour diriger un couple, une famille, le meilleur livre de leadership au monde pour diriger une entreprise, vous êtes en business, le meilleur livre au monde pour diriger des pays, il est là, il est dans ma main. C'est le livre de Dieu, c'est Jésus, et vous pouvez avoir accès à lui. Il faut prendre un peu de recul et être plus dans la parole, mes amis. Amen. Il était accessible. Il était recherché. La Bible dit que les gens cherchaient à avoir audience avec lui. Je ne sais pas si vous en êtes conscient ou pas, mais tout le monde cherche Jésus. Tout le monde. Les gens qui marchent sur la rue, qui sont... Un matin, je prends le métro et quelqu'un à côté de moi, je le regarde, je commence à prier pour lui et je pense à lui. L'après-midi, je le revois. Il marche encore. Qu'est-ce qu'il a fait toute la journée dans Paris? Il a marché, il ne travaille pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Les gens marchent, les gens cherchent, les gens... Il y a des gens, on a rencontré quelqu'un, ma femme et moi, pour un conseiller. Je pense que j'ai été dans le plus petit bureau de la ville de Paris. Je ne pense pas qu'il y avait un plus petit bureau que ça. Le mec, il travaillait à l'ordinateur, puis il y avait un mur là, tu vois. Puis ils étaient tous dans des petits cubicules comme ça. Je disais, mais c'est pas possible d'exploiter les gens comme ça, toi. C'est pas vrai. Le pays des droits de l'homme. Et je voyais les autres travailler, stressés. Tout le monde cherche à produire du chiffre, de l'argent et tout. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'ils cherchent de l'argent. Ils ne cherchent pas de l'argent, ils cherchent Jésus. Tout le monde cherche Jésus. Le roi Salomon était recherché par tout le monde. Consciemment ou inconsciemment, tous les hommes cherchent Jésus. Même à travers les religions, même à travers d'autres choses. Il est celui que l'humanité cherche. Quelqu'un dit amen. Le peuple était libre et heureux, la Bible dit. Et dernièrement, il est écrit que Salomon, c'est écrit dans 1 Roi 7.1, réussit son projet. C'est beau, hein? Le grand projet de la vie de Salomon. Tu veux te souvenir de Salomon? Sagesse et richesse et un grand projet dans sa vie. Salomon eut un grand projet dans sa vie, bâtir le temple. Il est écrit, il a réussi. C'est écrit dans la Bible, il a réussi à le faire. Jésus-Christ a un grand projet dans sa vie. Bâtir ton cœur. Le temple du Saint-Esprit en toi. Il veut te plaquer hors, il veut te construire, il veut habiter en toi. Dieu a perdu ce contact avec l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme a été séparé de Dieu et Jésus est venu pour reprendre sa place dans notre cœur. C'est le grand projet de Dieu. Le grand projet de Dieu n'est pas d'améliorer ma qualité de vie. Ça, c'est la quête et les promesses des politiciens. Le grand projet de Dieu, c'est de venir habiter en moi, afin que je sois heureux et que je vive dans la présence de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Et il est écrit que Salomon a réussi. J'aimerais te dire ceci aujourd'hui en terminant. Si tu ouvres ton cœur, pas aujourd'hui, pas maintenant, tous les jours de ta vie. Tu peux ouvrir ton cœur maintenant et tu peux le refermer demain. Mais si tu vis une vie d'ouverture à Dieu, Dieu va réaliser son plan dans ta vie. Amen. Et Paul dit, car j'ai la conviction que ce qu'il a commencé en nous, il va l'accomplir, il va l'amener à sa perfection. Hébreux dit que Jésus est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Il y a même une très belle traduction qui dit que Jésus est le perfectionneur de la foi. Dieu a un projet aujourd'hui, c'est travailler ton cœur, venir vivre en toi. Oui, mais j'ai tel besoin, mais je suis venu à l'église aujourd'hui, puis j'espérais que Dieu réponde à ça. Et voyez-vous, on a plein de choses autour de nous qu'on aime. Moi, le premier, on a plein de choses qu'on aimerait que Dieu réponde. Mais je te dis ceci, si tu es bien ici, tu seras bien partout. Si tu n'es pas bien là, on peut résoudre tout ce qui se passe autour de toi. Seigneur, donne-moi un mec. Il peut te donner un mec, tu ne seras pas plus heureuse. Seigneur, donne-moi un boulot. Il peut te donner un boulot, ça ne va rien régler. Si tu es bien ici, tu seras bien partout. Le projet de Dieu, c'est que tu sois bien en dedans. Et la seule façon d'être bien à l'intérieur, c'est que Jésus vienne dans notre vie. Qu'on soit le temple du Saint-Esprit et qu'on apprenne à vivre avec lui. Amen. Je termine avec ceci. Pourquoi je vous ai fait tourner dans 2 Chroniques chapitre 1? Parce que peut-être vous vous dites en terminant, qu'est-ce que je dois faire? C'est écrit. Même pas besoin de chercher, on a juste à lire la Bible. C'est écrit quoi faire. Regardez-moi bien. Je ne veux pas être très compliqué, je vais essayer d'être très très simple en 3 minutes, vous expliquer quelque chose d'essentiel. David meurt, Salomon devient roi. La première chose qu'il fait est extrêmement importante. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Suivez-moi bien. David, on remonte. Moïse, si vous êtes nouveau dans la foi, je prends cet instant pour vous l'expliquer. Dieu dit à Moïse, « Je veux venir habiter parmi mon peuple. » OK? Vous me suivez? OK? Le peuple d'Israël était un peuple nomade. Donc, il vivait dans des tentes. Donc, Dieu dit, « Je vais habiter dans des tentes avec vous. Dans une tente, j'aurai ma tente avec vous. » C'est ce qu'on appelle le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait une cour extérieure, comme quelqu'un peut avoir sa cour chez lui, tu vois. Dieu avait sa cour et Dieu avait sa maison parmi le peuple d'Israël. Extraordinaire. Ils sortent du désert, ils viennent dans Israël, conquièrent Israël. Ils vont poser la tente de Dieu à un endroit qui s'appelle Gabaon. Dites avec moi Gabaon. Super là, bien dit. À Gabaon, il y a la tente de Moïse. Plus tard, David arrive et David aime tellement la présence de Dieu. Vous savez ce qu'il fait? Littéralement, il a piqué un truc à Dieu. Dans la maison de Dieu, il y avait le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelait le coffre. Et le coffre, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je pourrais vous le prouver, ça représente le trône de Dieu parmi les hommes, le trône de Dieu dans mon cœur, le trône de Dieu parmi Israël, c'était le coffre de l'Alliance. Et c'est là que Dieu s'entretenait avec les hommes. Okay? C'est le coffre de la présence de Dieu. À l'intérieur du coffre, il y a les deux tables de la loi très fameuses, écrites du doigt de Dieu sur la pierre qu'il a donnée à Moïse. Tout est là. David aime tellement Dieu. Il envoie les Lévites, ils ouvrent le lieu très saint, on pourrait dire qu'il a presque piqué. Il prend le truc, il ramène à Jérusalem, il dit, je veux que le trône de Dieu soit à côté de chez moi. Je veux faire une maison de Dieu à côté de ma maison. C'est quand même beau, hein? Et là, Dieu dit, non, pas toi, ton fils. Mais David ne ramène pas le trône, le coffre à Gabaon, il le garde. Il lui fait une petite tente. David aimait vraiment la présence de Dieu. Alors, Salomon a un problème. Le coffre de l'Alliance est à Jérusalem, mais la tente tabernacle de Moïse est à Gabaon. Regardez bien, je termine avec ceci. Salomon convoque tous les responsables d'Israël. Ils sont obligés, sinon, on va tous ensemble à Gabaon. Il les amène à Gabaon et la Bible dit, on va le lire ensemble, regardez bien, chapitre 1, verset 5. « Devant le tabernacle se trouvait l'autel qu'avaient fabriqué Betsaleel, fils d'Uri et petit-fils de Hur. C'est cet autel que Salomon et l'Assemblée recherchaient. Regardez-moi bien. Le plus important, c'est la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, elle est à Jérusalem. Mais Salomon va à Gabaon. Il ne cherchait pas le coffre de l'Alliance, il cherchait l'autel. C'était quoi l'autel? C'était un immense brasier, c'était un gros brasier sur lequel on posait les sacrifices. Parce que Dieu voulait enseigner aux hommes, tu ne peux pas être en contact avec moi, tu ne le mérites pas, c'est la mort si tu es en contact avec Dieu, à cause de tes péchés. « Ouais, mais je ne suis pas un meurtrier. » Mais on a tous l'intention du meurtre en nous qui dort. Donc, on est tous des meurtriers. C'est vrai ou c'est vrai? Donc, l'homme ne peut pas être en contact avec Dieu, il va mourir. La justice de Dieu va le détruire instantanément. Quelqu'un doit mourir à ta place. Donc, on tue un agneau, l'agneau mourait sur l'autel et après, on pouvait entrer dans la maison de Dieu. C'est comme ça en Israël. OK, je le rends très simple. Salomon dit, on va là en premier, avant d'aller et de construire le temple. Regardez-moi bien, je termine avec cette pensée. L'autel, ça représente la croix. J'écoute, je n'ai pas le temps d'aller sur Internet, mais cette semaine, je suis allé sur Internet pour voir un petit peu ce que les chrétiens, le monde évangélique regardent, écoutent, qu'est-ce qui est tendance. Tu vois? J'étais un petit peu surpris de voir qu'il y a un jargon évangélique qui existe. C'est vrai, on a comme un langage à nous, les évangéliques. Et il y a un mot qui revenait souvent dans ce que je regardais, c'était la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Il y a quelqu'un qui priait sur l'écran. « Seigneur, tu bénis tous ceux qui me regardent. » Je pensais qu'il fallait regarder Jésus, mais bon. « Seigneur, la bénédiction, on va parler de la bénédiction. » Et la bénédiction est extrêmement répandue partout sur Internet. Et je crois que Dieu veut nous bénir, attention. Mais il faut commencer par aller à Gabon. La bénédiction, elle est à Jérusalem, avec la maison de Dieu, le temple, la présence de Dieu, vous me suivez? Mais pour avoir ça, il faut aller à Gabon. Et Gabon, c'est l'endroit où il y a l'autel du sacrifice, la croix. Suivez-moi bien. Pour avoir la bénédiction, pour avoir tous les bénéfices de la royauté de Salomon, il faut que nous allions à la croix. La croix, c'est l'endroit où on reconnaît qu'on est pécheur. On reconnaît, c'est un mot qui n'existe plus dans la société, on reconnaît qu'on fait des choses mal, que notre cœur est, comme Dieu a dit, le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. J'ai besoin de sauveur, j'ai besoin de quelqu'un. Jésus a donné sa vie pour moi. La croix, c'est l'endroit où tu arrêtes d'essayer de faire plaisir à Dieu. La croix, c'est la fin de qui je suis, d'une certaine façon. Mon « je », « me », « moi », ma fierté, mes idées, mes projets, mon ego, mon orgueil de vie, mon honneur personnel et toutes ces choses-là, tu mets sur l'autel, c'est cramé, c'est fini. Et Paul dit, « Offrez donc vos corps en sacrifice vivant. » C'est fort ce qu'il dit Paul, parce que le vrai mot, c'est même pas de mourir, c'est juste de se présenter devant Dieu. Tu n'as pas besoin de te tuer. Tu n'as pas besoin de te faire mal. Jésus a tout porté à la croix. Jésus est mort à notre place. Et Paul dit, je suis mort avec lui. Mais Paul dit, présentez-vous devant Dieu comme un sacrifice vivant. En d'autres mots, viens devant Dieu, comme on faisait à l'époque. Les esclaves venaient devant leur maître et ils disaient, maître, l'esclave montrait ses mains à son maître. Il disait, « Maître, je suis à toi, je suis ton esclave, je travaille pour toi. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? » Et quand ta vie est comme ça, Dieu t'amène à Jérusalem, Dieu t'amène au temple, Dieu t'amène à l'endroit de sa présence, Dieu t'amène à l'endroit de sa bénédiction. Il y a beaucoup de gens, la bénédiction de Dieu sur leur vie, elle est bloquée parce qu'ils n'arrivent pas devant Dieu les mains vides. Ils arrivent devant Dieu les mains pleines de projets. Seigneur, bénis ma vie, bénis mes projets, bénis mes idées, bénis ce que je veux. Je veux ceci, je veux cela, j'en ai les mains pleines, bénis ça. Et Dieu met un autel où on doit brûler ces choses. Il dit, brûle-moi tous tes trucs. Moi, j'ai des projets pour toi. Moi, j'ai un plan pour ta vie. Ce ne sera peut-être pas ton plan, ce ne sera peut-être pas la même adresse, tu vas peut-être déménager, tu ne vas peut-être pas déménager, mais présentez-vous devant Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Et quand on va à Gabaon, Dieu nous amène à Jérusalem. Si Salomon est ton roi, il va t'amener à Gabaon. Si Jésus est le roi de ta vie, Jésus a conduit des gens. Salomon a conduit le peuple à Gabaon. Et encore aujourd'hui, si tu veux marcher avec Jésus, tu dis, Seigneur, je veux te suivre. Le Seigneur va te prendre la main. Il va te dire, suis-moi. On va où, Seigneur? On va à Gabaon. Qu'est-ce qu'on va faire à Gabaon? On va aller renoncer à nous-mêmes. On va aller s'abandonner. On va donner nos soucis. On va donner nos fardeaux. On va donner notre passé. On va donner notre « je me moi ». On va donner notre orgueil. On va donner nos plans. On va tout mettre sur le barbecue de Dieu. Tout va brûler. Et regardez bien. Salomon est allé à Gabaon. Cette nuit-là, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Demande-moi. » Quand ton cœur est à Gabaon, le ciel s'ouvre et Dieu dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Quand ton cœur est dans l'abandon et la soumission, Dieu ouvre le ciel et Dieu envoie la bénédiction. Merci. Mais celui qui est béni, c'est celui qui va à Gabaon. Toutes les richesses de la royauté de Salomon sont pour ceux et celles qui vont aller à Gabaon. Pas aujourd'hui, demain matin. Quelqu'un aujourd'hui, ici dans ce lieu, va dire, Seigneur, je veux tellement prendre ta parole au sérieux. J'aimerais faire un appel en terminant aujourd'hui, mais pas à l'Église. Qui rentrera chez lui aujourd'hui et prendra Dieu tellement au sérieux que vraiment tu vas le faire dans le lieu secret? Tu vas rentrer chez toi, tu vas plier les genoux et tu vas aller à Gabaon. Tu vas dire, Seigneur, je te donne ma vie. C'est peut-être des blessures du passé que tu as besoin de donner à Dieu. C'est peut-être une colère. C'est peut-être tes péchés, tu as fait des choses que tu regrettes. C'est peut-être toutes les choses qu'on a mentionnées. Tu viens à Gabaon, tu mets tout sur l'autel de Dieu pour que ça soit brûlé. Et tu dis, voici Seigneur, je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Je ne veux pas me servir de Dieu, je veux servir Dieu. Je ne veux pas me servir de l'Église, je veux servir le corps de Christ. Seigneur, peut-être que moi je vais aller à droite, mais peut-être que toi tu veux m'amener à gauche. Me voici Seigneur. Ce n'est pas moi qui te le garantis. Dieu te garantit que le ciel va s'ouvrir. Et qui va te dire, demande-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et puis le Seigneur va commencer à bâtir ton cœur, un temple, amen, en or de la présence de Dieu pour toi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui. Richesse et sagesse sont en Jésus-Christ, hallelujah. Tu es notre David qui a tout accompli à la croix. Tu es notre David qui, dans sa mort, a débuté une nouvelle royauté, la royauté de Salomon. Tu es notre Salomon. Tu es notre sage. Tu es celui qui pourvoit nos besoins. Tu es notre riche. Tu es un Dieu accessible, Seigneur, qui veut nous écouter. Tu es celui qui est recherché. Tu es celui qui nous rend libres et heureux. Et tu es celui qui va réussir son plan. Alors aujourd'hui, nous voulons répondre à ton appel. Et comme l'apôtre Paul dit, nous voulons venir nous présenter devant toi et t'offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Seigneur, nous ne sommes plus dans une démocratie. Nous ne sommes pas non plus dans une monarchie. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, plus j'abandonne mes droits, plus je suis béni en retour. Et Seigneur, nous voulons vivre cette vie. Soumission à Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». Amen. Que Dieu vous bénisse. On ne terminera pas avec un chant parce que le groupe de louanges, ils ont fait 4 cultes. Je suis convaincu qu'ils sont lessivés. Vous chantez dans votre cœur en terminant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne partez pas rapidement. Prenez le temps vraiment de vous saluer. Je vous donne un devoir aujourd'hui au nom du Saint-Esprit. Allez rencontrer, saluer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amen. On est dans une grande ville où qui va tellement vite, beaucoup d'individualisme. On veut que les chrétiens, les frères et sœurs en Jésus-Christ apprennent à se connaître. Amen. Prenez un instant pour vous saluer, vous connaître en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Bon dimanche.